Méditation numéro 36. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. » Personnellement, quand j'ai finalement décidé de croire en Jésus-Christ, à me nourrir de lui, de sa foi, de son espérance, puis de ses paroles, les forces me sont revenues. S'il y a tant d'hommes et de femmes qui tombent littéralement en défaillance sous le poids de la vie de nos jours, c'est parce que le monde est sous-alimenté spirituellement. Au mieux, les gens pratiquent seulement une religion du dimanche. Comment voulez-vous vivre avec seulement un tout petit repos par semaine? Notre vie spirituelle a besoin d'être soutenue à tous les jours, autant que notre vie naturelle. Prenez l'habitude de consacrer au moins les 15 premières minutes de chaque jour à lire un passage des Évangiles, puis fermez les yeux, puis dites seulement une couple de mots de prière, pour remettre votre journée entre les mains de Dieu. Demandez-lui de vous donner la force de faire sa volonté, puis de vous conduire comme Jésus-Christ aimerait que vous vous conduisiez. Mettez ça en pratique, juste un petit 10 ou 15 minutes par jour, le temps de prendre un petit repos spirituel. Puis je vous garantis qu'après une semaine, votre vie va être transformée. C'est vrai ce que je vous dis. Le soir, en vous couchant, vous allez même avoir hâte de vous lever le matin pour rencontrer Jésus-Christ à travers l'Évangile et la prière. Moi, j'ai vécu ça. C'est merveilleux de vivre comme ça. Là, vous allez comprendre que c'était vrai quand Jésus disait « Je suis le pain de vie ». Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Méditation numéro 37. Jésus a dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » On se souvient du fameux Moïse David qui a mutilé une de ses disciples en lui coupant la main. Puis peut-être que vous avez... Vous vous souvenez peut-être aussi de Jim Jones aux États-Unis, qui se prenait pour le Christ et qui a poussé près de 900 personnes à se suicider ensemble par empoisonnement. Bon, ces gens-là sont pas tellement difficiles à reconnaître comme faux prophètes, mais il y en a une autre sorte de catégorie dont Jésus parle ici, puis qui est tout aussi dangereuse, c'est-à-dire les faux prophètes à la langue de miel. Bon, qu'est-ce que c'est? Il y a des faux prophètes qui amènent les gens à perdre la vie, comme Moïse David, comme Jim Jones. Mais Jésus parle ici de ceux qui amènent les gens à perdre leur âme. Il y a des foules de gens aujourd'hui qui se nomment chrétiens, mais qui se conduisent en méchants. Ils se permettent l'ivrognerie, ils se permettent l'adultère, ils se permettent le vol, ils se permettent la violence, puis ils trouvent ça drôle. Ils vont à l'église le dimanche, puis quand ils sortent de là, ils recommencent à vivre comme avant, puis ils pensent que Dieu est bien content de même. Pourtant, il y a une chose qui est très très claire dans la Bible, c'est qu'aucun méchant ne va entrer jamais dans le royaume de Dieu. Je le sais qu'il n'y a personne de parfait, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a une différence entre quelqu'un qui glisse, puis qui tombe dans la boue, puis quelqu'un qui court se jeter dedans, puis qui aime ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a une différence entre tomber dans le péché, puis être volontairement un pratiquant de péché. Dieu n'a pas de difficulté du tout à faire la différence entre les deux, lui. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été amenés à penser qu'ils pouvaient se moquer de leur péché par certains leaders religieux. Il y a une foule de leaders religieux de nos jours qui viennent à nous autres en vêtements de brebis, c'est-à-dire qui nous présentent un Dieu qui ne prend absolument pas le péché au sérieux, puis qui n'encourage pas les gens à changer de mode de vie ou simplement à s'améliorer. Ils leur font même croire que Dieu les aime de même, que ça ne donne rien de faire des efforts pour changer, parce que Dieu va envoyer tout le monde au ciel, en fin de compte, de toute façon. Puis c'est pas vrai, ça. Ces gens-là, cette sorte de faux prophètes-là, Mais ils n'ont pas le souci de plaire à Dieu, mais de plaire aux hommes. Ils s'efforcent de présenter un message qui va plaire à le plus de monde possible, parce que faire plaisir au monde, c'est plus payant que de leur dire la vérité. Mais l'apôtre Paul a clairement dit, « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Remarquez que ça ne dit pas « Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. » Parce qu'il est impossible d'être parfaitement saint, tout le monde sait ça. Puis Dieu aussi. Mais ça dit « Sans la sanctification, c'est-à-dire sans un travail, sans faire des efforts honnêtes d'amélioration. » Une personne qui ne fait pas d'efforts honnêtes pour améliorer sa vie, pour ressembler à Jésus-Christ, pour lui plaire, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Alors, si vous êtes présentement dans une église ou dans une secte où celui qui enseigne se moque du péché, puis qu'il en parle comme quelque chose d'insignifiant, puis de pas important, mais fuyez de lui, comme si vous étiez devant un serpent sonnette. Fuyez loin d'une église comme celle-là, d'une personne comme celle-là. Le serpent sonnette, lui, peut perdre votre vie, mais le faux prophète, lui, il va prendre votre âme avec. Méditation numéro 38. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux et léger, et mon fardeau léger. » Matthieu, chapitre 11, versets 28-29. Beaucoup de gens rejettent la vie chrétienne parce qu'ils pensent que le christianisme, c'est rien qu'un paquet de lois à fardeau que le Christ demande aux croyants de porter, mais c'est pas le cas, c'est pas le cas du tout. Je sais pas pourquoi tant de gens, puis même de croyants, regardent tout le temps les lois de Dieu comme des privations à s'imposer, ou des fardeaux à porter, parce que c'est pas ça du tout. Ajustons nos lunettes une fois pour toutes, puis réalisons que le mode de vie que Dieu et le Christ proposent aux hommes est la recette suprême du bonheur sur cette pauvre terre de ténèbres dans laquelle on vit. L'apôtre Jean dit ceci de Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Personnellement, j'ai été déçu par beaucoup de philosophies et par beaucoup de religions. De nombreuses religions tendent à vouloir s'imposer aux hommes, puis les rendre encore plus malheureux qu'ils étaient avant. Mais le vrai christianisme libère les hommes. Il ne les enlace pas. Jésus-Christ culpabilisait pas les gens pour les forcer à le suivre puis à rester avec lui, loin de là. En fait, Jésus-Christ n'a jamais eu à le faire parce que ce sont les gens eux-mêmes qui décidaient de le suivre ou non, tout à fait, volontairement. Si vous ne le savez pas encore, ben je vais vous le dire, Jésus-Christ n'en veut pas d'esclaves. Il veut des disciples, des amis, des frères et des sœurs. Jésus-Christ aime mieux avoir un seul disciple qui marche avec lui volontairement, de bon cœur, par choix personnel, que d'en avoir 100 autres qui vont le suivre parce qu'ils se sentent obligés. Jésus-Christ a jamais essayé de retenir ceux qui avaient décidé de ne plus le suivre. Il y a même un jour à faire ses propres disciples de s'en aller s'ils le désiraient. Saviez-vous ça? Il est écrit dans l'Évangile de Jean au chapitre 6, « Plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » Jésus a-t-il essayé de les culpabiliser? Leur a-t-il dit, « Bon, ben, ma bande d'infidèles, si vous partez, Dieu ne sera plus avec vous autres, vous ne serez plus bénis, la colère de Dieu va être sur votre tête, puis vous allez être tous damnés. » Ben, c'est pas ça qu'il a dit, loin de là. Jésus s'est simplement retourné vers les douze, puis leur a dit, « Et vous, voulez-vous pas vous en aller aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alors notre maître laissait en tout temps les gens entièrement libres de le suivre ou de l'abandonner. Jésus-Christ évangélisait. Il faisait pas de recrutement. Il y a une différence entre les deux. Il y en a là, tout ce qui les intéresse, c'est de remplir les bancs d'église. Il y a à peu près toutes les religions fonctionnent comme ça, mais c'est pas comme ça que Jésus-Christ fonctionnait. Beaucoup de nos jours sont absolument incapables de faire la différence entre évangéliser et recruter, et remplir leur poulailler, comme on dit. Saviez-vous qu'il y avait des multitudes de personnes qui suivaient Jésus partout, puis qu'il les renvoyait après les avoir enseignés? C'est incroyable. Jésus-Christ ne prenait jamais les adresses des gens qu'il suivait. Ce sont les gens qui décidaient eux-mêmes s'ils voulaient avoir un suivi ou non. Jésus ne cherchait pas à rassembler le plus de gens possible autour de lui, pour se construire un petit empire, un petit royaume. C'est absolument faux, ça. Non, Jésus-Christ était comme un bon feu l'hiver. Puis son seul souci était de réchauffer tous ceux qui s'approchaient de lui. C'était ça, Jésus-Christ. Les gens réalisaient très rapidement que le Christ avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Les disciples suivaient selon la loi de l'attrait et non de l'obligation ou de la peur ou de la crainte. Une religion qui est uniquement intéressée à faire du recrutement puis à grossir le nombre de ses membres ne vaut pas deux sous, mes amis. Peut-être que l'Église qui vous a mis en contact avec l'Évangile est comme ça, je ne sais pas. Mais même si c'est le cas, je vous dis pas d'aller chercher ailleurs. Perdez pas votre temps. Dans toutes les églises, il y a des gens comme ça, qui cherchent juste à grossir le nombre de leurs adhérents. L'important, c'est que dans votre cœur, vous, personnellement, vous compreniez la différence, puis que vous ne vous laissiez pas enlacer par la même erreur que de quelques-uns. L'apôtre Paul a dit, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclave, autrement dit, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba Père. » Il y a aussi dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1, où Paul dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. » Méditation numéro 39. Bon, dans ce message-ci, on va parler du péché. Puis craignez pas, quand Jésus parle du péché dans l'Évangile, c'est jamais pour nous condamner, mais toujours pour nous aider. C'est vrai qu'il y a des croyants qui ont compris la chose un peu croche, là, puis qui nous présentent ça tout croche des fois, là. Mais c'est ça, le Seigneur, c'est pas un condamneur, c'est un sauveur. Dieu appelle les hommes là, à reconnaître, puis à se détourner de leur péché. Ça, c'est bien, c'est vrai, c'est bien important à comprendre. Dieu est saint, c'est pour ça qu'il appelle les hommes à se sanctifier. Pourquoi? Mais parce que la sainteté apporte le bonheur. Puis Dieu veut qu'on partage son bonheur. Dieu est saint, puis c'est un Dieu bienheureux, nous dit les Écritures. À quelque part, la Bible parle de Dieu comme étant le Dieu bienheureux, oui. Dieu nous aime, puis il veut qu'on marche dans ses traces, parce qu'il sait que c'est seulement dans ces traces-là qu'on peut vraiment trouver la paix intérieure. La sanctification, c'est donc le chemin du bonheur. L'abandon de nos péchés est absolument nécessaire au vrai bonheur. À travers son œuvre de sanctification, Dieu essaie pas de nous enlever quoi que ce soit, mais bien de nous donner quelque chose. La sanctification n'est pas une contrainte que Dieu nous impose, mais une délivrance que Dieu nous propose. La sanctification n'est pas une perte, mais un gain. La sanctification ne doit pas être envisagée comme une chose imposée, mais comme une faveur que Dieu fait aux cœurs fatigués de leurs péchés. En Acte 3, 26, l'apôtre Pierre a dit, « Dieu, ayant suscité son serviteur Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Alors, quand l'Écriture dit que le Christ est venu pour ôter les péchés, elle ne veut pas dire qu'il est venu nous priver, mais de nous sauver. L'idée, c'est pas de nous enlever quelque chose de précieux, mais de nous ôter des épines des pieds. Dieu veut pas nous arracher nos péchés, il veut nous en libérer, nous en décharger. Il n'y a rien de plus libre qu'un homme qui est libre de ses péchés ou de ses mauvaises habitudes. Il n'y a rien de plus libre qu'un homme ou une femme qui est libre de lui-même et d'elle-même. Il ne veut pas nous rendre malheureux, le Seigneur, il veut nous guérir. 1 Pierre 2, 24 dit, « Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Méditation numéro 40. Je veux parler un peu de l'indépendance. Une des grandes faiblesses de l'être humain, c'est l'égoïsme, puis l'indépendance envers Dieu. Les gens se disent, je vais conduire ma vie à ma manière, je veux faire qu'est-ce qui me plaît, quand ça me plaît, puis plusieurs sont prêts à aller à la messe une fois de temps en temps avec ça, mais ils laissent pas Dieu entrer, puis influencer leur vie de tous les jours. C'est dommage parce que laisser Dieu entrer dans nos projets, puis nos décisions de tous les jours, c'est ça qu'on a le plus de besoin. Puis c'est ça qui est le plus bénissant dans l'existence. Comment de fois on lève les yeux vers le ciel en pensant à notre Créateur? Une fois par jour? Une fois par mois? On le fait-tu seulement une fois par année? Pourtant, ça devrait être la chose la plus naturelle qu'il y a au monde de faire. C'est triste que les gens se mettent à regarder vers le ciel seulement quand ils reçoivent un coup dur dans la vie. Puis encore, c'est souvent pour chialer après lui. Je me souviens quand j'étais adolescent, j'étais en difficulté, puis je me souviens avoir prié comme ça. « Mon Dieu, donne-moi ce que je te demande, puis je ne t'achèverai plus jamais après. » Puis tu ne m'achèveras plus jamais après non plus. C'est ça que je voulais dire. Autrement dit, fais juste me donner ce que je veux, puis tu pourras sacrer ton camp après aussi vite que possible. Mais Dieu n'a pas répondu à ma prière, puis il a bien fait. Il y a une leçon qu'il fallait que j'apprenne, c'est que Dieu n'était pas un bouche-trou. Au cours des années, en lisant les Écritures saintes, puis en réfléchissant, ben, j'ai bien réalisé que Dieu devait absolument rien, ni à moi, ni à personne. Puis que tout ce qui nous arrive de bon dans la vie, c'est une pure faveur, puis une grâce qu'il nous fait. J'ai découvert la joie de la reconnaissance. Moi, j'ai pris l'habitude de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits que sa providence m'accorde. Puis j'apprends la même chose à mes enfants, en tout cas j'essaye. Moi, quand j'ai commencé à dire merci à Dieu pour chaque bonne chose de la vie, petite ou grande, j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus heureux. À être reconnaissant envers Dieu, ça m'a permis de découvrir mon fonctionnement, en quelque sorte, puis ma raison d'être sur la terre. J'ai trouvé ma place en tant que créature de Dieu, c'est-à-dire vivre dans une agréable communion avec mon Créateur. Des dizaines de millions de gens sont malheureux dans le monde parce qu'ils vivent dans l'indépendance de Dieu, ou ils essayent de vivre, si on peut appeler ça une vie, ou ils vivent à l'encontre de sa volonté à quelque part. Beaucoup agissent pas comme ça par méchanceté, mais simplement parce qu'ils savent pas qu'il existe un mode de vie différent et bien meilleur. Celui de Jésus-Christ. Celui que le Seigneur nous propose. Dans le livre de Genèse, ça dit que Dieu visitait l'homme et sa femme tous les jours vers le soir. Mais à cause du choix qu'ils ont fait de mettre Dieu en dehors de leur vie, puis de vivre dans l'égoïsme, dans l'indépendance, ils ont jeté rien que le malheur dans leur vie tout entière, puis dans la vie de leurs enfants, après eux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, par Jésus-Christ, donne encore à l'homme la chance de retrouver sa vraie vie, sa vraie raison d'être. Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Méditation numéro 41. Parlons de l'enfer un peu. Bon, c'est pas un sujet tellement populaire, mais c'est quand même un sujet qui est dans les évangiles, puis il faut en parler si on veut être fidèle à la parole de Dieu. Même si on ne sait pas de quoi l'enfer va être fait exactement, on sait qu'il existe en tout cas. Jésus-Christ en a parlé à plusieurs reprises. La nature de l'enfer est un peu difficile à définir avec exactitude. Mais quand on regarde seulement aux Écritures saintes, on a quand même une bonne idée. Quel danger peut bien avoir en enfer? On va peut-être se demander. La Bible dit dans l'Épître de Jude, au verset 6, si vous voulez vérifier vous-même, qu'il y a déjà des démons enfermés là. Alors, c'est bien possible que les gens qui vont aller là vont être, d'une façon ou d'une autre, maltraités, torturés, tourmentés par ces créatures méchantes-là. L'enfer est une prison pour les esprits méchants, c'est ça que c'est. Puis les êtres humains, qui vont avoir été jugés comme méchants sur la terre, mais vont être jetés avec eux autres. Hommes ou démons, Dieu va simplement mettre tous ceux qui sont pareils dans la même boîte. Si une personne aimait mieux faire le mal que de faire le bien sur la terre, ben cette personne-là va simplement être envoyée avec ceux qui lui ressemblent, c'est tout. Alors, à certains endroits, on dit que l'enfer est un endroit de ténèbres dans les Écritures, ce qui est peut-être une image pour nous faire comprendre que ça va être un endroit terrifiant, un endroit où on va être totalement abandonné à nous-mêmes, avec les millions de démons qui vont y être aussi. Puis comme l'enfer est premièrement un endroit de punition pour les démons, ben les esprits mauvais, puis les anges de Satan, ben je pense qu'ils vont pas être de très bonne humeur de se retrouver là, hein. Puis c'est mon avis que les hommes qui vont se retrouver avec eux autres vont drôlement déguster, comme on dit. On sait que c'est sur eux autres qu'ils vont se défouler, hein. À plusieurs autres endroits, on compare l'enfer à un feu qui brûle toujours. Un endroit de pleurs et de grincements de dents. Bon, le feu qui brûle représente probablement les sentiments que les hommes méchants vont ressentir en réalisant qu'ils sont pris là pour toujours. Aujourd'hui, tu peux tuer quelqu'un, puis là, tu te condamnes à la prison pour la vie, ce qui veut dire environ 10 ans, puis là, tu ressors, puis tu peux aller tuer quelqu'un d'autre, puis en plus, on te donne un chèque quand tu ressors. Mais d'après ce que la Bible enseigne, je peux vous dire que le système judiciaire, puis le système carcéral de Dieu est pas mal plus performant que le nôtre. Je vous garantis. De façon générale, Dieu donne à l'homme 20, 30, 40, 50, 60 ans, 80 ans des fois, pour décider s'il veut être bon ou méchant. Dieu laisse énormément de temps aux hommes pour se repentir, puis se rajeter s'ils ont pris le mauvais chemin. Puis la seule façon de vraiment réussir à faire ça, ben, c'est à travers Jésus-Christ. Tout seul, on n'est pas capable. Ce qui veut dire qu'à tous les jours, qu'on le réalise ou non, puis qu'on le veuille ou non, on prouve qui on est. Puis malheureusement, ben, des millions d'êtres humains prouvent qu'ils sont méchants à peu près tous les jours. En réalité, les gens qui vont aller en enfer vont avoir choisi eux-mêmes d'aller vivre là. Ce n'est pas vraiment Dieu qui va les envoyer de force. T'aimes la violence, t'aimes la méchanceté, t'aimes ça faire du mal aux autres, t'aimes ça blesser les autres, profiter des autres, marcher sur les autres, mais ben, va vivre pour l'éternité avec des pareils comme toi. Tu veux être avec tes chums, ben tu vas y être. Tu vas y être pour toujours. Tu vas même être avec des démons. Tu vas avoir des bons maîtres. Là, tu vas connaître ce que c'est que de vivre du côté des faibles. Là, tu vas connaître ce que c'est que de vivre dans la peur. T'aimais dominer sur les autres, alors tu vas être dominé. T'aimais mépriser les autres, tu vas être méprisé à ton tour. T'aimais torturer ton conjoint ou tes enfants verbalement, mais tu vas être torturé de la même façon toi aussi. T'aimais faire souffrir les autres, tu vas souffrir toi-même. En définitive, si Dieu a créé l'enfer, c'est pas parce qu'il est cruel, mais c'est au contraire un endroit qui va enfin rendre la vraie justice. Une justice qui faisait si souvent et si terriblement défaut sur la terre. L'enfer va donc être l'accomplissement d'une grande promesse, qui est celle-ci. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Mais ce n'est évidemment pas la volonté parfaite de Dieu que personne aille là. L'apôtre Pierre a écrit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient en parlant de son retour, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La Sainte Bible dit aussi, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors profitons de la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la main tendue de Dieu vers nous. Détournons-nous du mal. Laissons-nous laver gratuitement par le sang de Jésus-Christ. Puis acceptons son pardon. Dieu est prêt à faire grâce à tous ceux qui le voudront. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu a dit, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine blanche. » Puis au lieu d'entendre votre condamnation au jour du jugement, vous allez entendre les plus belles paroles qu'une âme entende jamais, puis qui sont celles-ci. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Méditation numéro 42. On va parler de la persévérance. Ce message-ci, bien, j'aimerais l'adresser à ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ, mais qui sont retombés, qui sont retournés à leurs anciennes habitudes, leur mauvaise vie, qu'on pourrait dire. Il y a des tas de raisons qui font qu'une personne ne persévère pas dans la foi évangélique. Il y a beaucoup, beaucoup de gens sur terre qui ont un jour voulu marcher avec Dieu, puis qui ont commencé à le faire, vraiment. Ils se sont mis en route, puis à un moment donné, ils sont tombés dans un de leurs anciens péchés. Alors, ils se sentent tellement coupables qu'ils n'osent même pas revenir à Dieu aujourd'hui. Mais écoutez-moi bien. Quand on est fidèle, Dieu nous aime. Puis quand on est infidèle, bien, Dieu nous aime. Quand on est fort, Dieu nous aime. Puis quand on est faible, Dieu nous aime. Quand on est saint, Dieu nous aime. Puis quand on trébuche, Dieu nous aime. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu sait tout. Il savait d'avance qu'on retomberait en cours de route. Mais ça ne l'a pas empêché de nous accepter et de nous recevoir la première fois qu'on est venu à lui. C'est normal de se sentir comme un chien après avoir retombé dans des péchés qu'on voulait abandonner, mais c'est pas la volonté de Dieu qu'on reste dans cet état-là. On doit savoir que la première chose que Dieu veut faire quand on tombe, c'est de nous tendre la main et de nous aider à nous relever. Alors le problème n'est pas que Dieu veut pas nous pardonner, mais qu'on ne veut pas nous pardonner nous-mêmes des fois. Le vrai problème, c'est qu'à cause de sa culpabilité, le rétrograde se disqualifie souvent lui-même de l'amour de Dieu, alors que Dieu ne l'a jamais disqualifié. La Sainte Bible dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il y en a peut-être qui vont dire, « Ben oui, mais ça fait 10 fois que j'essaye de marcher avec Dieu, puis ça fait 10 fois que je plante. » Je comprends que ça peut être troublant pour la conscience, mais qu'on soit tombé 10 fois, ou même 20 fois, ou 100 fois, ça change pas ce que la Bible dit. Puis ça change pas la promesse de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas de nombre de chutes ou de pardons limites dans ce texte-là. Alors profitons donc de cette grande provision de miséricorde que Dieu a mis à notre disposition. Écoutez-moi bien, laissez jamais le péché vous empêcher de continuer de marcher avec Jésus-Christ au meilleur de votre capacité. Dans le fond, qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ, sinon un boiteux qui persévère à essayer de marcher droit? Des boiteux, là, Dieu a déjà vu ça. Peu importe vos faiblesses, si vous êtes capable de vous repentir, Dieu est capable de vous pardonner. Ça pose absolument aucun problème pour lui. La Sainte Bible dit à propos de Jésus, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver de la grâce, de la force, pour être secouru dans nos besoins. » Je pense que c'est Saint Jérôme qui écrivait à son ami, qui avait rétrogradé comme ça, puis lui disait, « Que fais-tu dans le monde, toi qui es plus grand que le monde? » Méditation numéro 43. On va parler du vrai succès. Il y a des gens qui sont bien fiers de leur accomplissement sur la terre puis du succès qu'ils ont eu à se bâtir une bonne sécurité financière. Une belle grosse maison, une auto neuve à tous les ans, une piscine creusée peut-être, un chalet dans Laurentides, dans des jamais, là, des enfants à l'université, des vacances à l'étranger, mettez-en. Comprenez-moi bien, il n'y a rien de mal à être bien nanti. Je pense que c'est une grande, grande qualité que d'être travaillant. Puis une grâce de Dieu d'être prospère financièrement. C'est normal de vouloir ce qu'il y a de meilleur pour notre famille aussi. Mais je dis seulement que le vrai succès dans la vie se mesure pas au bien matériel qu'on a acquis, mais à notre capacité d'être demeuré fidèle aux lois et à la volonté de Dieu durant notre vie. Jésus a dit, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Quelqu'un a dit, en vivant pour les bonnes choses de cette vie, on oublie facilement celles qui concernent l'âme. C'est bien un des plus grands dangers qui guette l'homme prospère. Oublions jamais que la vie du corps dure très très peu de temps. On va tous entrer dans l'éternité un jour, puis peut-être beaucoup plus vite qu'on pense. Puis Dieu voudra pas savoir la marque de notre dernière voiture, m'excuse. Il va vouloir savoir quelle place Jésus-Christ et les précieux principes de son évangile occupaient dans notre vie. Un ancien poète chrétien a écrit « Juste une vie, c'est vite passé. Il y a seulement ce qui a été fait pour le Christ qui va demeurer. » La vraie réussite dans la vie, c'est d'avoir réussi à développer en nous le caractère même de Jésus-Christ. Et là, la vraie réussite. Un homme qui a aimé Jésus-Christ, puis qui s'est efforcé toute sa vie de traiter les autres avec charité, un homme qui s'est efforcé toute sa vie de marcher droit, d'être honnête, qui s'est efforcé d'être indulgent envers les fautes des autres, de ne pas les juger sévèrement, est un homme qui a réussi sa vie, peu importe qu'il soit en haillon ou non. Il va l'avoir réussi même s'il a toujours été pauvre. Il ne laissera peut-être pas de maison sur la terre après sa mort, mais il va laisser l'odeur d'un parfum spirituel que les gens qui l'ont connu vont se souvenir et se rappeler toute leur vie. Cet homme-là va vivre toujours dans les souvenirs des autres. La Sainte Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Méditation numéro 44. Je vais parler un peu du positif de la maladie. C'est le médecin Paul Tournier qui a écrit « La maladie interrompt brusquement la routine de la vie et nous confronte avec notre destin. » Bon, la maladie nous force à réfléchir aux questions fondamentales de l'existence. C'est des questions qu'on avait souvent bien réussi à oublier avec le temps. La pensée de la mort, ben ça nous force à nous questionner sur notre état spirituel. C'est exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. Quand on voit passer un corbillard, là, on est tous saisis d'une certaine crainte, parce qu'on sait que notre tour va venir. Quand on voit ça, on devrait se demander, est-ce que moi je serais prêt à faire face à Dieu comme ça? Est-ce que je suis prêt à rendre compte de ma vie, de toutes mes actions, de toutes mes intentions? Quand nos affaires vont bien, là, on vit généralement comme si on n'allait jamais mourir. Puis on pense à peu près juste aux choses de la terre, puis à suivre les penchants de notre cœur. Ce qui n'est pas toujours mauvais, mais ce qui n'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Mais les problèmes de santé sérieux ont souvent pour effet de nous éveiller spirituellement, puis d'attirer notre attention à l'importance des valeurs spirituelles. Alors la maladie peut être une bénédiction à un moment donné. Si on a fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, on va pouvoir entrer dans la vie éternelle avec joie, sachant que Dieu va nous recevoir quand on va arriver au bord. Ceux qui auront détesté Jésus-Christ vont mourir comme abandonnés au milieu des ténèbres. Mais les vrais croyants vont quitter leur corps dans la lumière, puis ils vont être accueillis dès leur arrivée dans le royaume de Dieu. Si notre vie n'a pas tout été à la gloire de Dieu, par contre, grâce à notre confiance en Jésus-Christ, notre mort, elle, peut être une expérience des plus glorieuses, et des plus merveilleuses, et des plus grandes. Jésus-Christ a dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Notre foi dans les paroles de Jésus-Christ va nous faire oublier toutes nos peines puis nos échecs. La mort va tout sanctifier. Jésus-Christ a encore dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il y a seulement Jésus-Christ qui peut donner une telle espérance dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Méditation numéro 45. Je veux parler de la vie physique pour faire suite à ce qu'on vient de dire. J'aimerais ça parler de la vie physique. La Bible dit « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. » C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 6. On considère souvent notre corps comme ce qu'on a de plus précieux au monde. Mais la façon dont parle la Sainte Bible à propos de notre corps humain, ben, il n'a pas l'air d'être quelque chose de bien bien précieux aux yeux de Dieu. C'est vrai, il n'est pas non plus précieux, le corps humain. Le corps, c'est en fin de compte rien qu'un petit tas de poussière collé ensemble, puis dans le fond, puis qui nous sert de moyen de transport sur la terre, plus ou moins, puis c'est tout. Mais notre vrai moi, c'est notre esprit. L'être humain est un être spirituel d'abord. Il possède un corps, mais il est un esprit. Au début, Adam et Ève étaient en parfaite communion avec Dieu, puis c'était même pas dans le plan de Dieu qu'ils meurent. Jusqu'au jour où ils ont péché en rejetant Dieu de leur vie, alors la mort est entrée dans le monde. Maintenant, Dieu a voulu que les hommes meurent parce que la mort oblige l'homme à penser à se remettre en communion avec lui, cette communion qu'il a perdue. La mort, c'est le dernier appel à la repentance de la part de Dieu. Cherchez-en pas d'autre après, il n'y en a pas d'autre. Quand un homme ou une femme meurt, c'est fini. Il n'y a pas de repentir de l'autre côté de la tombe. Quand un homme ou une femme ne veut pas penser à la mort, c'est parce qu'il sait, ou qu'elle sait, que sa vie n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. On sait qu'on s'en va répondre de nos péchés devant Dieu, de nos erreurs, de tous les mauvais coups qu'on a faits sans le regretter. Alors ça nous met mal à l'aise de penser à la mort, parce qu'on ne sait pas comment tout ça va finir pour nous autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné un moyen de mourir en paix. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour appeler le monde à la repentance, pour appeler le monde à se détourner de ses péchés. Alors si ce n'est pas déjà fait, laissez aujourd'hui Jésus-Christ vous laver de tous vos péchés passés, puis prenez l'engagement de vivre selon la volonté de Dieu au meilleur de vos capacités. Dieu ne demande pas l'impossible, mais il demande qu'on fasse des efforts honnêtes. En faisant ça, on ne sera pas obligé de craindre la mort. La mort peut devenir la plus belle expérience de notre vie. Quand on s'en va retourner notre Seigneur avec une conscience lavée par le sang de Jésus-Christ, bien sûr. Rappelons-nous l'histoire du bon larron. En réalité, je ne sais pas pourquoi on l'appelle le bon larron, parce qu'il avait été si bon que ça, il ne se serait pas retrouvé là, pas vrai. L'Évangile selon Luc, chapitre 23, dit « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Oui, on peut se repentir sur notre lit de mort. On peut faire une belle mort. Mais il est plus sage de faire une belle vie pour faire une belle mort. Saint Augustin a dit, « Il n'y a qu'un seul cas de repentance sur le lit de mort dans les évangiles. C'est celui du voleur repentant. Il n'y en a qu'un seul, afin que nul ne désespère, mais que nul ne pense pouvoir en abuser non plus. » Méditation numéro 46. Je veux parler de la justification, de la doctrine de la justification. Un peu de théologie biblique, ça va nous aider grandement dans notre bonne relation avec Dieu. La Sainte Bible dit qu'à partir du moment où on a cru en Jésus-Christ, on a été justifié. C'est-à-dire que même si on est encore bien imparfait, Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ, puis il nous voit absolument sans tache. En devenant croyant, on a pris l'engagement de faire des efforts honnêtes pour réformer notre vie, puis de la conformer à celle de Jésus-Christ. Mais Dieu savait bien qu'il n'y aurait jamais personne qui arriverait parfaitement à faire ça. Alors c'est pour ça qu'il nous a justifiés, pour employer l'expression de l'apôtre Paul. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être justifié? C'est qu'après avoir fait nos propres efforts pour mener une vie sainte, et bien tout ce qui nous manque encore est automatiquement comblé par la sainteté même de Jésus-Christ, en attendant de pouvoir faire mieux. Maintenant qu'on a été placé en Jésus-Christ par la foi, on participe à la même faveur de Dieu que lui aux endroits où on ne peut pas encore vivre pour la mériter. C'est pas merveilleux ça? Jésus était le Fils unique de Dieu, mais depuis que son évangile a été prêché et cru, il est né d'autres fils à Dieu. C'est en Romains, dans l'Épître aux Romains, où saint Paul a dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Dans la première épître de l'apôtre Jean, chapitre 3, il est écrit aussi, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant, enfants de Dieu. » Alors, encore une fois, être des fils et des filles de Dieu, ça signifie qu'on participe à la justice ou à la sainteté même de Jésus-Christ. Mais tout ce qui manque à notre sainteté est automatiquement comblé par celle de Jésus-Christ. Moyennant, évidemment, des efforts honnêtes pour faire notre part aussi. Là. Toujours garder ça à l'esprit. Avoir été justifié en Jésus-Christ, ça signifie donc pas seulement qu'on a reçu le pardon de nos péchés passés, mais encore ceux du présent et du futur. C'est pour ça que l'apôtre Jean a dit dans sa première épître, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Alors, si vous avez entendu parler de l'Évangile, mais que vous ne voulez pas prendre une décision par crainte d'avoir des échecs ou de ne pas être à la hauteur de votre engagement, moi, je vous dis, n'hésitez pas pour ça. Dieu savait qu'on allait avoir des échecs puis des chutes à suivre Jésus-Christ avant même qu'on vienne au monde. Puis ça ne l'a pas empêché de nous appeler quand même aujourd'hui. L'apôtre Paul a écrit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, ou changés par sa vie, si vous voulez. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Bon, la réconciliation dont il est question ici n'est pas une réconciliation limitée au moment où on a décidé de faire entrer Jésus-Christ dans notre vie, mais ça parle d'une réconciliation permanente qui se poursuit dans le temps présent et futur, malgré nos fautes et nos offenses puis nos manquements. Quand l'apôtre Paul affirme qu'on a obtenu la réconciliation, il parle de quelque chose qui est maintenant acquis, quelque chose qui nous appartient maintenant pour toujours, dans le présent, dans le futur, puis jusque dans l'éternité. Si la mort de Christ nous a été en bénédiction, imaginons ce que sa vie peut nous apporter maintenant. Si on a été réconcilié avec Dieu alors qu'on était littéralement ses ennemis par notre façon de vivre, désordonnée, quelle merveilleuse relation est-ce qu'on peut vivre maintenant avec lui alors qu'on a été déclaré saint en croyant Jésus-Christ. Méditation numéro 47. La lumière de nos vies, oui. On a beau avoir des bonnes périodes dans nos vies, puis que nos affaires vont pas mal bien, on peut pas empêcher les mauvais jours d'arriver aussi tôt ou tard. On peut essayer d'ignorer comment on se sent, mais on pourra pas toujours échapper au sentiment de marcher dans les ténèbres de temps en temps, puis de pas savoir qu'est-ce qui se passe, puis de pas comprendre ce qui nous arrive des fois. On peut pas vraiment être heureux à vivre dans l'indépendance de Dieu, c'est impossible. On a été créé pour le connaître, puis vivre en communion avec lui. Sans Dieu dans notre vie, il nous manque quelque chose. La religion ne suffit pas. Il nous faut une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il faut le suivre à tous les jours. L'homme possède une dimension spirituelle, puis ça serait vraiment pas sage de la négliger. L'homme a besoin de foi pour vivre. La foi procure l'abondance intérieure. C'est George Miller qui a dit « Le commencement de la vraie foi, c'est la fin de l'anxiété. » C'est merveilleux, ça. Alors, sentir qu'on a besoin de Dieu, c'est pas une faiblesse. C'est une chose tout à fait naturelle. S'appuyer sur Dieu, puis vivre par la foi, est absolument nécessaire au bon équilibre psychologique et moral de tout homme et de toute femme. Jésus-Christ vous trompera pas comme le reste du monde. Faites entrer Jésus-Christ dans votre vie. Contentez-vous pas seulement de croire en Dieu, parce que vous savez comme moi que très souvent, c'est pas suffisant. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, où Jésus a dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Alors, pour vraiment approfondir notre connaissance de Dieu, puis notre expérience avec lui, il faut aller plus loin, et pas seulement croire en lui, mais croire aussi en Jésus-Christ, c'est-à-dire devenir des disciples de son enseignement. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 18, dit encore « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Alors, on a besoin de Jésus-Christ, pas seulement de Dieu. Vous allez voir qu'après quelques semaines, en compagnie de Jésus-Christ, votre connaissance de Dieu va au moins s'être multipliée par 10. Vous allez découvrir des vérités cachées au reste du monde. Vous allez trouver de plus en plus de réponses et d'explications aux différents problèmes de la vie, puis surtout, comment y réagir de la bonne façon. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Méditation numéro 48. Si vous avez l'impression qu'il vous faut courir 10 000 à chaque jour avant qu'on vous aime, ben c'est que vous fonctionnez sous le principe des performances, nous disent les psychologues. On sait, comme c'est pas drôle, de sentir qu'on est obligé de performer pour être accepté par les autres. Il y en a beaucoup qui pensent que devenir chrétien, c'est pareil. Ils pensent que la vie chrétienne, c'est de passer des pamphlets dans tous les sens jusqu'à temps que la langue nous pende à terre. Là. Il y en a qui pensent que c'est d'aller à l'église à tous les jours. C'est pas surprenant que les gens aient envie de se sauver quand ils voient des chrétiens s'en venir. Hein? Ou le curé qui fait sa visite paroissiale, ou le pasteur qui vient nous rendre visite. Bon, c'est pas surprenant. Le pire, c'est que bon nombre de croyants vivent comme ça, puis qu'ils essaient de faire vivre les autres sous le même fardeau. C'est pas ça, la vie chrétienne. sais, il y en a qui sont malheureux puis ils veulent pas être seuls à l'être, fait que alors, c'est pas fait méchamment, comprenez-moi bien, je le sais, il s'agit d'un simple manque de connaissance et d'expérience de l'Esprit de Dieu. Si je parle de ça, c'est simplement que je veux que vous partiez votre vie chrétienne, ou que vous la, qu'il y ait un tournant là, dans votre vie chrétienne, ou que vous repartez du bon pied. Je veux que vous acceptiez le Seigneur dans la joie maintenant, puis que vous continuez à marcher en lui, dans sa joie et dans sa liberté également. J'ai connu un jeune pasteur, moi, qui essayait de fonder une nouvelle église. Il y avait 4 ou 5 nouveaux convertis de très fraîche date, dis-je. À chaque vendredi soir, il les entraînait littéralement dans les parcs pour qu'ils évangélisent puis qu'ils remplissent l'église le plus vite possible. C'était une petite église pentecôtiste, je pense. Je me souviens de l'expression, moi, qu'ils avaient sur la figure, ces nouveaux gens-là. Puis je peux vous dire que c'est un véritable miracle s'ils sont pas tous abandonnés la foi puis renoncer à être chrétiens. On leur avait fait croire que c'était une obligation devant Dieu pour eux autres que d'aller partager leur foi aux gens dans la rue. On peut pas demander à un poussin qui sort à peine de l'œuf de pondre des œufs. C'est impossible. Laissez-moi vous lire un passage très important de l'Évangile de Luc au chapitre 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. On connaît l'histoire un peu. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marc, occupé à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Vous n'aurez aucun effort à faire, à part celui de vous asseoir aux pieds de Jésus-Christ, puis d'écouter tranquillement sa parole. Si vous voulez vraiment avoir un bon départ là, dans la foi, ou un nouveau départ, faites ça. La première chose que Jésus-Christ veut enseigner à des nouveaux disciples, c'est pas de partir en croisade, mais simplement de se reposer à ses pieds, et d'écouter sa parole. Alors laissez personne vous priver, ou vous faire sortir du repos spirituel qui vous a été donné et qui a coûté si cher à Jésus-Christ de vous obtenir. Oui, Jésus-Christ va vous demander de faire des choses dans le royaume de Dieu un jour, quand vous allez être bien fortifié et affermi dans la foi. Mais soyez assurés que les œuvres que le Christ va vous demander ne vous feront jamais perdre votre paix ni votre repos en lui. Toute œuvre et toute activité qui vous fait perdre la paix et la joie d'être chrétien ne vous a pas été demandé par Jésus-Christ, mais par les hommes. L'Écriture dit, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Alors, si vous n'avez pas encore pris votre décision de devenir un croyant, peut-être que vous êtes un jeune, là, je sais pas qui peut m'écouter. Beaucoup de jeunes ne connaissent rien de la religion ou n'ont jamais vraiment entendu parler de Jésus-Christ. Peut-être à l'école un peu, à la catéchèse, mais pas plus. Alors si vous n'avez pas encore pris une décision là, sérieuse de devenir chrétien parce que vous avez peur peut-être de ce qu'on pouvait vous demander de faire après, bien vous pouvez jeter toutes vos peurs derrière votre dos parce que Jésus-Christ vous demandera jamais de faire des choses que vous n'êtes pas prêt vous-même à faire. Acceptez de suivre Jésus-Christ, puis vous allez découvrir que vous n'aurez pas à marcher beaucoup. Parce que la plupart du temps, il va simplement vous demander de vous asseoir tranquillement à ses pieds, le nez dans votre Bible, puis d'écouter son enseignement. C'est le prophète Isaïe qui a écrit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Méditation numéro 49. Je veux parler du ministère du Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une vérité théologique abstraite. L'Esprit de Jésus est bien réel dans la vie des vrais croyants, puis exerce une véritable œuvre dans leur vie. Jésus a promis le Saint-Esprit à ceux qui croiraient en lui. Entre autres choses, le Saint-Esprit a le ministère de nous délier des sentiments négatifs qui nous font souffrir quelquefois, comme la dépression, la culpabilité, la colère, l'amertume, l'inquiétude, puis des diverses blessures que la vie nous a faites. L'Esprit de Jésus vient à notre secours en nous rappelant les précieuses paroles de Jésus-Christ. Il nous soutient puis recharge nos batteries. Recevoir l'Esprit de Jésus, c'est recevoir le pouvoir de marcher sur les difficultés sans enfoncer. L'Esprit que vous allez recevoir quand vous allez devenir un vrai croyant, là, un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est un esprit de paix qui va vous rappeler que tout est sous contrôle. Sous le contrôle de Dieu, je veux dire. C'est avec confiance qu'on peut garder la sérénité en tout, parce qu'on sait que Dieu est fidèle et qu'il va toujours être à côté de nous autres pour nous consoler au milieu de nos épreuves, puis nous les faire traverser victorieusement. L'Esprit de Jésus est un esprit de paix, de courage, puis un esprit victorieux. Lisez les évangiles à tous les jours. Retirez-vous régulièrement des bruits de ce monde pour marcher avec Dieu dans la solitude, puis laissez son esprit vous parler et vous consoler. Quand notre vie est bouleversée, c'est le moment de nous retirer à l'écart puis de parler avec Dieu. Des gens sont morts pour avoir pas fait ça. Le Saint-Esprit de Dieu va rendre les vérités spirituelles qu'on a apprises plus réelles à nos cœurs que les douleurs intérieures de cette vie, de sorte que, proportionnellement à notre foi, là, on va être élevé au-dessus des soucis terrestres qui nous font souffrir. La Sainte Bible dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours même, qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Pour finir, je vais seulement citer une dernière parole de notre Seigneur. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. »